French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Salut et bienvenue dans French Expat. Moi, c'est Anne Fleur, la co-créatrice du podcast et la réalisatrice actuelle. Vous vous apprêtez à écouter nos tout premiers épisodes. Si toutes les histoires que nous avons relayées dans le podcast nous ont beaucoup marquées, et ce, dès la première, il faut bien avouer que notre style, notre technique et la qualité de notre travail ont énormément évolué depuis 2019. Si ça vous dit de voir où on en est, rendez-vous dans les épisodes à partir du 1er juin 2021. Dans tous les cas, merci à vous d'être là et belle écoute.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Expat. Je suis Laetitia, cofondatrice de ce podcast et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, French Expat est le podcast qui parle d'expatriation par celles et ceux qui la vivent ou l'ont vécu. Chaque semaine, nous recevons un nouvel invité qui vient nous parler de son histoire d'expatriation avec ses challenges et aussi ses réussites. Alors, bonne écoute à vous! Mon invité d'aujourd'hui est originaire d'Auvergne et elle vit aujourd'hui à Houston, au Texas, avec son mari et leur chienne. Sans trop vous en dévoiler, elle est la preuve que les relations à distance peuvent durer, si tant est qu'on s'en donne les moyens et qu'on fasse preuve de patience. Bonjour Manon et merci d'avoir accepté de nous partager ton histoire d'expatriation aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir, ça fait un moment qu'on se connaît, qu'on échange ensemble sur Instagram. Pour ceux qui ne savent pas, Manon, c'est aussi ma collaboratrice, une de mes collaboratrices sur Français aux USA, le compte Instagram. Et voilà. Mais aujourd'hui, je te reçois dans un cadre un petit peu plus particulier, puisqu'on va parler de toi, de ton expatriation aux États-Unis. Et du coup, j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ton parcours.
Ouais, merci Laetitia. Je suis très, très contente que tu m'aies invitée à participer à ce beau projet que vous avez monté avec Anne Fleur, donc j'ai hâte d'écouter les histoires de tout le monde, et puis j'espère que la mienne pourra apporter quelque chose aux auditeurs.
J'en suis persuadée. Alors du coup, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour comprendre ce qui t'a amené toi aux États-Unis, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière, en juin 2014. À l'époque, tu as 20 ans, tu es étudiante à Clermont-Ferrand, et tu finis une licence en échanges internationaux. Et puis, juste quelques mois plus tard, je crois, tu arrives en Oklahoma. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce qui t'a conduit à travers l'Atlantique ?
Oui, alors en fait, donc, dans le cursus de mes études, comme tu disais, mon université me proposait un programme d'échange pour mon Master 1. Alors, toute notre licence 3, il nous motivait beaucoup, il nous incitait beaucoup, surtout voilà, en venant d'une licence échange internationaux. Pour eux, l'expérience internationale, c'était très, très important. Donc, ils ont passé toute l'année un peu nous bourrer le crâne à ce sujet. Et moi, j'étais très, très motivée de partir. J'avais un peu la France, l'Auvergne, tout ça. J'étais pas très, très positive sur ma vie en France. Et je rêvais des États-Unis. Je voulais aller très loin. J'avais déjà eu plusieurs expériences en Europe. Donc, pour moi, les destinations Espagne, Angleterre, ça m'intéressait pas beaucoup. Et en fait, la ville de Clermont et la ville de Norman, où se trouve le campus donc, de l'Université de l'Oklahoma, en fait, sont jumelés. Donc, déjà, beaucoup d'étudiants, je connaissais déjà beaucoup d'étudiants qui avaient étudié à cette fac et qui m'avaient donné des très bons retours. Et en plus, le jumelage apportait plus de place à la fac. Et également, il y avait une bourse de la région Auvergne, des choses comme ça. Donc, voilà ce qui m'a un peu motivée dans mon choix de l'Oklahoma. Et puis, leur business school était quand même très, très réputée aux États-Unis. Donc, c'était un gros plus pour moi.
D'accord. Donc, du coup, tu arrives à Norman, donc en Oklahoma. Et est-ce que c'est loin de Oklahoma City ?
Non, je dirais que c'est à peu près à une demi-heure d'Oklahoma City.
D'accord, ok. Et du coup, alors c'est vrai que beaucoup de gens, d'étudiants rêvent parfois de plus grandes villes comme New York, Los Angeles, etc. Toi, quand tu es arrivée à Norman en Oklahoma, est-ce que c'était ce que tu imaginais ou est-ce que c'était très différent de ce que tu avais pu envisager comme expérience? Et puis, quelles ont été les bonnes surprises et puis peut-être les déceptions par rapport à cette ville?
Alors, c'est vrai que moi, je rêvais de partir à Los Angeles ou à New York. Clairement, dans les villes qui m'étaient proposées, c'était pas en option. Donc, c'est vrai que pour moi, l'Oklahoma, c'était un peu, on va voir ce que ça donne. Il paraît que c'est chouette, mais je connaissais pas du tout l'Oklahoma. Hein. Déjà, j'avais aucune idée de où se trouvait l'Oklahoma, comme beaucoup de Français, je pense, et aussi pas mal d'Américains, même, je me suis rendu compte. Donc, c'est vrai que j'ai un peu fait mes valises sans trop savoir où j'allais atterrir. Alors, j'ai fait des petites recherches sur Internet avant. Hein. Merci Google. Et puis, surtout pour rassurer mes parents, parce que c'est vrai que mes parents étaient un peu stressés à l'idée de me voir partir un an dans une destination que ni eux ni moi ne connaissions, quoi. C'est vrai que quand on a 7 heures de décalage horaire, c'est difficile d'appeler ses parents quand on a une urgence.
Et puis c'est difficile pour eux aussi de venir si jamais il y a un souci, parce que c'est plusieurs milliers de kilomètres et des heures d'avion.
En cas de budget, c'était pas possible de compter sur eux. Et c'est vrai que je connaissais rien de l'Oklahoma. Pour moi, c'était un peu la campagne, c'était un peu l'Auvergne de l'Amérique. Et puis je me suis vite rendu compte qu'en fait, la campagne aux États-Unis, c'était pas forcément la même chose que la campagne en France. Je me souviendrai toujours le premier trajet en taxi que j'ai fait de l'aéroport qui m'amenait jusqu'à mon premier hôtel parce que mon appartement était pas encore disponible. Et là, on était sur une autoroute immense. Je crois qu'il y avait 6 voies d'un côté, 6 voies de l'autre, des immenses panneaux publicitaires partout, des restaurants, des puits de pétrole, c'est ce qui m'a surtout beaucoup choquée.
Ah oui.
Je n'avais jamais vu de puits de pétrole avant ça. Donc c'était un peu le choc culturel, quoi. Et puis après, la vie universitaire à OU, donc c'est comme ça qu'ils appellent l'université de l'Oklahoma. C'est vrai que pour moi, c'était vraiment une année de rêve, quoi. On voit que le prix que les étudiants payent, clairement, joue sur les salles de classe, les complexes sportifs. Il y avait salle de gym, il y avait tout le temps de la nourriture gratuite sur le campus, des goodies, des massifs de fleurs qui étaient taillés en forme du logo de l'université. C'était quand même assez irréel, quoi. Et puis, c'est vrai que je pense que OU, c'est un campus qui correspond beaucoup au cliché de l'université américaine. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être dans American Pie, quoi. Il y avait les sororités, les fraternités, les cheerleaders, l'équipe de foot qui est complètement adulée par toute la fac.
Donc, vraiment comme dans les films, quoi.
Ouais, vraiment. Un stade de foot de 80 000 places. Plus, 86 000 places, il me semble. C'est quand même plus grand que le Stade de France. Quand on se dit qu'on parle de sport universitaire, c'est assez impressionnant, quoi. Donc c'est vrai que c'était vraiment un an où j'en ai pris plein la vue. Un gros point négatif par contre où je ne m'attendais pas, je dirais que c'était les transports. En fait, je pensais pas que en arrivant sur un campus dans une ville universitaire, il était possible de n'avoir quasiment pas de transport en commun, c'était pas possible de se déplacer à pied. Il y a des endroits en Oklahoma, il y a carrément pas de trottoir sur le bord des routes parce que personne ne se déplace à pied, tout le monde se déplace en voiture. Personnes qui se déplacent en bus en général sont les sans-abri, des personnes qui ont vraiment très 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 peu de moyens. Donc c'est vrai que malheureusement, les bus, en plus, ne sont pas fiables au niveau des horaires ou des trajets. Donc, c'est vrai que c'était assez compliqué. Je me souviens avoir même dû rentrer en stop une fois des courses. J'ai arrêté une petite dame sur le parking. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me ramener chez moi? J'ai aucune idée de où je suis. Donc, ça, j'en ai jamais parlé à mes parents. C'est vrai que les gens de l'Oklahoma sont vraiment très gentils, très accueillants. Donc ça, même si faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité aux États-Unis, je pense sûrement plus qu'en France dans certains quartiers, quoi.
Ouais.
Mais ouais, voilà.
D'accord. Donc plutôt une belle découverte dans l'ensemble.
Oui, je pense que voilà, au niveau vie étudiante, si y a des personnes qui ont l'opportunité et qui se disent que l'Oklahoma, c'est ringard, on ne sait pas trop ce que c'est, je dirais que vraiment je le recommande parce que je pense que c'est vraiment l'expérience universitaire qu'on imagine quand on pense à l'université aux États-Unis, ouais.
D'accord, chouette. Et alors du coup, puisqu'on parle de vie universitaire, alors pour partir étudier aux États-Unis, il faut un visa spécial. Et puis, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça s'est passé pour toi pour obtenir ce visa? Est-ce que ça a été compliqué? Quel visa, du coup, tu as eu? Et s'il y a eu un coût? Alors c'est vrai qu'on a un peu cette idée des études universitaires américaines qui sont très chères, et c'est vrai pour les Américains. Comment ça se passe quand on est français et qu'on part étudier aux États-Unis dans le cadre d'un échange comme toi tu as fait?
Ouais, alors donc moi pour étudier, je suis partie avec un visa qui s'appelle le visa J1. Alors pour partir aux États-Unis, à part quand on part en tant que touriste, il faut toujours ce qu'on appelle un sponsor. Soit on est sponsorisé par une personne, soit par une organisation, soit par une entreprise, par exemple, dans le cadre d'un visa de travail. Donc ici, moi, dans mon cas, c'était l'Université de l'Oklahoma qui me sponsorisait et qui sponsorisait en fait tous les élèves qui partiraient dans le cadre de l'échange. Donc en fait, c'est eux qui ont fait le lien entre l'ambassade des États-Unis à Paris, qui donc délivre les visas pour la France, et moi. Donc en fait, ils ont envoyé à l'ambassade tous les papiers nécessaires et à moi tous les papiers que je devais avoir besoin d'emmener à l'ambassade. Puisqu'il faut toujours passer par un rendez-vous à l'ambassade pour obtenir le visa. Mm-hmm. Donc, après, ouais. Ça a été vraiment très bien ficelé par l'université et l'ambassade. On a été très, très bien guidés. Voilà, il fallait fournir, bien sûr, une paperasse administrative. C'est toujours long et compliqué, mais au final, c'était très faisable. Je ne me souviens pas avoir payé des frais de visa. Enfin, je pense que j'ai dû en payer, mais alors je ne me souviens plus le coût. Et après, pour du coup, de mon année, moi, j'ai payé mes frais scolaires en France. Donc, au final, voilà, je crois que pour un Master 1, j'ai payé à peu près 500 euros, puisque je n'étais pas boursière à l'époque. Il me semble que les étudiants à OU payent à peu près 10 000 dollars l'année. Donc, c'est sûr que à ce niveau-là,
ouais, ça fait une grosse différence.
C'était une chance. Donc, au final, voilà, la majorité des choses que j'ai payées, c'est mon billet d'avion. J'ai aussi payé mon logement sur place pour l'année. Et puis, j'avais également fait un petit prêt étudiant pour pouvoir me permettre de voyager parce que je trouvais que c'était important. Si j'étais sur place, aussi loin de chez moi, j'avais envie de pouvoir voyager et d'en profiter, quoi.
Ouais, bien sûr. C'est vraiment l'occasion. Quand l'occasion se présente, c'est difficile de pas l'envisager, en tout cas.
Ouais.
D'accord, donc tu fais à peu près 7-8 mois, 9 mois d'année universitaire aux États-Unis, et puis arrive mai 2015, ton Master 1 se termine à Oklahoma City, et ça sonne plus ou moins la fin de ton année pour toi à Norman. Du coup, c'est l'heure de rentrer en France, mais pour toi ça va être un peu plus compliqué que ça, puisque tu as rencontré quelqu'un. Et du coup, ça corse un petit peu le retour.
Oui, c'est ça. En effet, j'ai rencontré maintenant mon mari, la personne que je peux appeler maintenant mon mari, oui. On s'est rencontrés en cours. On avait plusieurs cours en commun. En fait, c'est vrai qu'on s'est rencontrés le premier jour de cours que j'ai fait là-bas. Et on a été ensemble sur deux projets de groupe. Donc, c'est vrai qu'on a rapidement appris à se connaître à travers les cours, puis bon, après, on s'est un petit peu dragué, un peu timidement, tous les deux. Je pense qu'on avait un peu des a priori. Moi, j'avais beaucoup d'a priori sur les Américains. Je me disais, ouais, c'est un peu des arrogants, ils sont persuadés qu'ils sont le meilleur pays du monde, etc.
Ouais.
Lui, il avait un petit peu des a priori sur la française. Pour lui, la française, elle avait 15 copains partout en Europe. Mais bon, petit à petit, on a appris à oublier les a priori, à se rendre compte qu'en fait, c'est vrai que bon, on pense des choses sur les personnes des autres pays ou sur les autres pays, et en fait, on a totalement faux.
Ouais, les préjugés ont la vie dure.
Ouais, c'est ça.
D'accord. Donc, tu rentres en France parce que donc tu viens juste de finir ton M1. Donc, toi, ton objectif, c'est de faire ton M2 aussi, hein, d'avoir un master. Donc là, à ce moment-là, tu rentres en France et jusqu'en septembre, tu fais un master en alternance. Donc, tu es de retour à Clermont-Ferrand à ce moment-là. Hein.
Oui, c'est ça.
D'accord. Donc, tu finis ton master 2 en septembre, c'est ça, septembre 2016.
Oui, c'est ça.
Et à ce moment-là, j'imagine que la question d'aller rejoindre Andrew se pose. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à vous? Quels sont vos projets? Comment vous envisagez le futur, en fait? Le futur proche, on va dire, à ce moment-là.
Ouais, alors, donc c'est vrai que bon, toute l'année d'alternance, j'ai eu la chance de pouvoir pas mal voyager, aller le retrouver, puisque du coup, c'est vrai que j'avais des congés, quoi, comme une personne qui travaille. Et en plus, je gagnais un salaire, donc je mettais tout de côté... pour rentrer le voir à chaque vacances. Clairement, ma tête n'était pas aux études, mais je savais bien qu'il fallait terminer mes études, surtout que j'avais déjà attaqué mon master, donc ça aurait été dommage. Et voilà, la seule chose qui nous trottait dans la tête, c'est comment on va faire pour se retrouver? Est-ce que je pars aux États-Unis? Est-ce que tu viens en France? Alors la question de lui partir en France, c'est vite a vite été close, puisqu'il parle pas un mot de français, l'apprentissage du français très très difficile pour lui, donc c'est vrai que moi j'étais pas du tout fermée à l'idée de partir vivre aux États-Unis, au contraire. On se dit qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Soit je trouve un travail aux États-Unis et je me fais sponsoriser sur un visa de travail, soit on se marie. C'était un peu les deux seules solutions. Alors moi je voulais pas qu'on se marie. Je pense que j'avais un peu peur du regard des autres, surtout j'avais pas envie qu'on dise qu'on se mariait que pour le visa, etc. Enfin pour moi on vivait une belle histoire d'amour. Je voulais pas que ça gâche le romantisme. Et donc du coup j'ai vite commencé à chercher du travail, mais je me suis vite rendu compte que en fait même avec un master en marketing on est des milliers aux États-Unis à avoir le même diplôme que moi. Et pour être sponsorisé pour un travail aux États-Unis, il faut être un peu plus spécial que Manon avec un petit master en marketing. Donc, c'est vrai que je me suis vite rendu compte que c'était très, très dur, voire impossible.
Ouais, et ça, on y reviendra certainement plus tard dans un futur épisode de ce podcast. Mais effectivement, juste une petite parenthèse, décrocher un job aux États-Unis quand on est en France, ça implique énormément de démarches pour l'employeur qui va sponsoriser un candidat. C'est une démarche qui est longue, qui est parfois coûteuse et qui est complexe aussi. Donc c'est vrai qu'il y a peu d'employeurs finalement qui se lancent dans ce challenge-là sans vraiment connaître le candidat, sans qu'il y ait eu une première peut-être relation de travail établie. Donc c'est vrai que ça reste très très difficile de se faire sponsoriser comme ça un peu de but en blanc, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis d'ailleurs, il me semble aussi que l'entreprise doit justifier auprès de l'immigration américaine que voilà, la personne a une compétence qui justifie de l'employer elle et non pas un citoyen américain. Donc ça, c'est plus dur aussi, quoi.
Donc du coup, la recherche d'emploi n'avance pas trop, en tout cas n'est pas aussi fructueuse que ce que tu aurais aimé.
Non, c'est ça, voilà, c'était compliqué. Alors en plus, en faisant des allers-retours, des voyages de 1 à 2 semaines, c'est vrai que c'est quand même compliqué de décrocher des entretiens, etc. Du coup, on s'est dit, maintenant, il faut qu'on prenne une décision. Donc j'ai dit, avec l'ESTA, je peux venir 90 jours. C'est le plus long qu'on puisse rester avec un ESTA. Donc, j'ai dit, je viens pendant 90 jours. Et alors, je fais tout pour soit trouver un travail, soit, on trouve une solution. On savait qu'après ces 90 jours, en plus, j'aurais pas le droit de revenir aux États-Unis pendant un bon moment. Ouais. Donc, on a dit, on tente le tout pour le tout. On profitera de ces 3 mois ensemble et on fait le maximum pour trouver du travail.
D'accord. Donc là, cette période-là, c'est à peu près au printemps 2017, hein, si je ne me trompe pas.
Ouais, c'est ça. C'était de mars à mai 2017.
D'accord. Et entre-temps, ce qu'il faut préciser, c'est qu'Andrew, lui, a déménagé. Il n'est plus en Oklahoma. Il est parti à Santa Barbara, un peu plus loin, sur la côte ouest, en Californie. Et donc toi tu le rejoins pour passer un peu plus de temps avec lui, pour s'assurer aussi que tout se passe bien quand on est 90 jours non-stop ensemble. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois et qu'est-ce qui se passe en fait pour vous?
Eh bien, du coup, le 2 avril, donc c'était pas un poisson d'avril, il me demande de l'épouser. Donc forcément, forcément, je dis oui. On part en vacances au Mexique quelques jours pour fêter ça. Et puis, bon, bah, au retour, il faut se poser la question, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Tu m'as demandé ma main, j'ai dit oui, mais bah, y a une partie un peu moins romantique qui suit. C'est, du coup, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui se passe au niveau visa, est-ce que je peux rester tout de suite, quand est-ce qu'on peut se marier, etc. Donc, on prend rendez-vous avec un avocat spécialisé donc dans l'immigration et il nous donne deux solutions. Il nous dit soit tu restes sur place et vous vous mariez, mais alors attention, c'est pas forcément autorisé. Normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. On n'a pas le droit de venir aux États-Unis pour se marier comme ça avec un ESTA. Donc, ça peut être risqué. Soit tu repars en France et tu demandes un visa K1. Qui est également appelé le visa fiancé. Et oui. Du coup, une fois que tu attendras donc ton visa fiancé en France, tu auras ton entretien à Paris, etc. Une fois que tu auras ton visa, tu pourras partir aux États-Unis. Et en gros, le deal, une fois que tu arrives aux États-Unis avec un visa fiancé, tu as 90 jours pour te marier et en gros, régulariser ta situation. Donc, de toute façon, c'était hors de question de rester comme ça. J'avais dit à ma famille que je rentrais. Je pense qu'un processus d'immigration, c'est déjà assez dur pour la personne qui immigre et pour son entourage. Mais alors, leur dire de but en blanc, bah non, au final, je rentre pas et puis on se marie sans vous, je pense que pour moi, c'était pas possible. Donc, j'ai décidé.
Ouais, tout à fait. Sans compter que c'est aussi un peu risqué, puisque c'est pas la procédure traditionnelle de rester sur le territoire. Et ben...
Moi, j'ai dit non, je prends pas le risque. Enfin, c'est nos vies qui sont sur la sellette, quoi. Donc, pour moi, c'est tellement, quand on m'a parlé des risques de plus pouvoir retourner aux États-Unis, des choses comme ça, c'était. Hors de question pour moi. Donc, on a dit visa K1, donc je rentre en France et. À peu près au mois de juillet, tous les papiers sont envoyés pour ma demande de visa.
D'accord. Et est-ce que c'est un processus qui est long et est-ce qu'il est coûteux aussi ?
Ouais, c'est un processus qui est assez long parce que entre donc le dépôt de mon dossier en juillet et l'arrivée de mon visa, on compte à peu près un an. Je l'ai eu en juin 2018. Donc voilà, on est à peu près à un an.
Ouais.
Donc ça s'est passé. Je pense assez vite et très bien, quoi. Je pense pas que ce soit un délai exceptionnellement long, malheureusement. et du coup, c'est vrai qu'en attendant, pendant ces un an, je pouvais pas, enfin, en tout cas, il n'était pas recommandé que je retourne aux États-Unis. Donc, Andrew est venu me voir une fois, il me semble, et voilà, c'est vrai que le plus long qu'on ait passé sans se voir était d'à peu près 9 mois. Donc, c'est quand même assez
long
sur un coup. Et au niveau des coûts, alors nous, on est passé par un avocat, donc on avait des frais d'avocat en plus. Mais je dirais que tout le processus, alors là, je te dirais, tu vois, du visa K1 à ma carte verte que j'ai désormais, je compterais entre à peu près 4 et 5 000 dollars et 2 ans.
D'accord.
Donc c'est assez long.
C'est assez long, il faut prendre patience, ouais.
Par contre...
Non, vas-y, je t'en prie.
Par contre, c'est vrai que j'étais assez surprise. Enfin, moi, je me faisais beaucoup de... Voilà, j'avais beaucoup d'a priori sur l'immigration américaine, les personnes de l'immigration qui sont pas très gracieux, pas très sympas. J'avais beaucoup... Enfin, j'appréhendais énormément ce processus. J'étais persuadée qu'on pouvait être refusé pour tout et pour rien. Et c'est vrai que, tout ce processus d'immigration, je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu fais correctement les papiers, que le dossier est bien rempli, qu'il n'y a aucun red flag pour eux, moi, par exemple, je ne suis jamais restée sur le territoire américain alors que mon visa avait expiré ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui peuvent poser des problèmes. Mais en général, je pense que... Enfin, moi, les officiers d'immigration que j'ai vus ont toujours été vraiment très gentils. Et très franchement, ça s'est très bien passé. Mais les grosses difficultés étaient plus dans ma tête que vraiment le processus en lui-même.
D'accord. Et alors, justement, la question que j'allais te poser, c'est que... La seule référence que j'ai par rapport au mariage aux États-Unis, enfin en tout cas entre un citoyen français et un citoyen américain, c'est le film qui date déjà de plusieurs décennies maintenant avec Gérard Depardieu et Andy McDowell, je crois,
ouais.
Où à un moment donné ils passent l'immigration, enfin ils se sont mariés ou ils vont se marier et ils doivent justifier, donc ils sont limite dans une salle d'interrogatoire chacun de leur côté. Et on leur pose des questions très intimes sur leur vie de couple, en fait, pour, bah, typiquement pour écarter l'hypothèse d'un mariage blanc, en fait, pour obtenir un papier. Alors, est-ce que ça se passe comme ça dans la réalité aussi, ou pas vraiment, en fait ?
Alors, je dirais oui et non. C'est vrai qu'en fait, ils nous demandent un dossier. Donc ça, c'est pour l'obtention de la carte verte, donc après le mariage. Pour le visa K1, très franchement, l'entretien, c'était très simple. On m'a fait jurer de me marier dans les 90 jours après mon arrivée sur le sol américain. Et on m'a dit félicitations, bon voyage et bon mariage. Donc à ce niveau-là, c'était
d'accord.
Très rapide, très simple. C'était un guichet comme à la banque. Donc c'était pas du tout dans un bureau. Moi, je pensais que j'allais avoir un interrogatoire aussi et pas du tout. Par contre, après, pour la green card, là, c'est un entretien en couple. Où là, on est dans un bureau isolé, donc pareil, on jure toujours voilà, qu'on va dire la vérité. Et en fait, au préalable, l'agent de l'immigration, il a eu tout un dossier sur vous que vous lui avez donné. Alors, c'est vrai que ça peut être assez intrusif. Par exemple, nous, il nous avait demandé nos réseaux sociaux. Après, c'était sur les recommandations de notre avocat, les pièces additionnelles qu'on a fournies. Mais donc par exemple des choses bêtes hein, mais des imprimés écrans de 2014, Manon s'est mise en couple avec Andrew, des choses comme ça.
D'accord.
Photos, il y avait énormément de photos voilà, avec des membres de notre famille, des choses comme ça. On nous avait même demandé notre historique d'appel sur notre téléphone, donc pour montrer que voilà, on s'appelle souvent. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est assez intrusif. Après, je pense que c'est des pièces qui sont pas demandées. C'est un peu au bon vouloir, mais on nous a bien dit que plus on fournissait de pièces, plus on serait tranquille. Comme pièces qu'on a fournies. Ouais, surtout des photos et après des choses comme par exemple si on a un contrat de location ensemble, un compte commun, des choses comme ça. Alors, c'est vrai que moi, ça m'avait beaucoup stressée parce qu'en fait, à l'époque de l'entretien, on n'avait rien en commun parce que la banque avait refusé de nous mettre sur le compte commun puisque j'avais pas de carte verte, justement. Donc, c'est assez, c'est assez illogique. Apparemment, certaines banques acceptent de vous mettre sur un compte commun quand vous n'avez pas de carte verte. D'autres, oui, d'autres, non. Donc, bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas été très... n'ont pas été très difficiles sur ça. Je pense qu'ils savaient que c'était pas tout le monde qui avait cette pièce. Pareil pour le contrat de location. Nous, on était logés à titre gratuit par l'entreprise Andrew, donc on n'avait pas de contrat de location. Et après, au niveau des questions, non, la dame a été très gentille. Elle nous a demandé voilà, 2-3 trucs sur notre mariage. Elle nous a surtout demandé ce qu'on faisait à Syracuse, parce qu'à l'époque, on était à Syracuse dans l'État de New York, et qu'on avait...
Ouais.
Elle nous dit, mais je vois dans votre dossier que vous avez demandé le visa fiancé à Santa Barbara, ensuite vous avez fait vos empreintes en Oklahoma, et maintenant vous êtes ici à Syracuse. Donc c'était surtout ça, sa question.
Ça l'a perturbée un peu.
Ouais, ça l'a perturbée un peu, mais au final, elle a vite compris. On lui a expliqué que moi, mon mari voyageait beaucoup pour le travail, donc ça ne l'a pas choquée. Je pense que c'est très, très courant aux États-Unis, donc d'être
mobile. D'accord. Bien sûr.
Ouais, elle nous a dit, elle ne nous a même pas demandé toutes nos pièces justificatives ou toutes nos preuves. Moi, j'avais amené mon petit album photo du mariage, elle n'a même pas voulu regarder, j'étais trop déçue. Et oui, elle nous a dit on sent qu'il y a de la chimie entre vous, on voit que vous êtes un vrai couple, donc pour moi c'est bon.
D'accord.
Donc là, super. C'était le soulagement. Waouh, c'était
ouais, j'imagine.
Deux ans de bataille qui se terminait. Ouais, c'était une grosse
histoire. Et alors, du coup, on va revenir juste un tout petit peu en arrière parce qu'on en vient de mentionner Syracuse, mais sans avoir réexpliqué un petit peu le contexte. Donc en fait, juin 2018, tu obtiens. Le visa K1. Quelques temps après, tu pars rejoindre Andrew, qui, la dernière fois qu'on en parlait, était à Santa Barbara, mais là, il est de nouveau revenu à Oklahoma City, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, tu le rejoins à Oklahoma City, là où, en tout cas dans l'état où vous êtes rencontrés.
Oui, c'est ça.
Vous vous mariez, donc dans cette période des 90 jours, vous vous mariez à Oklahoma City, et le lendemain de votre mariage, littéralement, vous prenez l'avion et vous partez à Syracuse, là où Andrew commence un nouveau job. Et pour situer géographiquement, Syracuse se trouve dans l'état de New York, au nord de New York, hein, si je dis pas de bêtises.
Oui, je crois qu'on était à peu près à 1h30 de la frontière du Canada.
D'accord. Donc, un mariage et une toute nouvelle vie de jeune marié qui commence à Syracuse.
Ouais, c'est ça.
Et du coup, alors toi, qu'est-ce que tu connaissais de Syracuse? Comment tu vis ça à ce moment-là? Mariage, déménagement, nouvelle ville?
Ouais, alors c'était très très intense parce que c'est vrai qu'on s'est mariés le 10 novembre, le 11, on était dans l'avion, ma famille, mes amis avaient fait le déplacement pour le mariage, donc on s'est tous retrouvés à l'aéroport à finir le wedding cake en attendant notre avion. C'était vraiment ça, l'aéroport était rempli, en plus Oklahoma City c'est un tout petit aéroport, donc c'était rempli des invités qui avaient fait le voyage, puisque beaucoup des membres de la famille d'Andrew viennent du Texas, donc eux aussi ils avaient pris l'avion. Ouais, on part pour Syracuse. Alors Andrew y avait passé une semaine et il m'avait dit oh là là, mais c'est trop ça craint et tout, il m'avait dit. Donc j'étais là merci, ça me motive vraiment à partir. Et bon, c'est vrai qu'il m'avait pas menti, Syracuse ça a été un peu la grosse déception pour nous. Alors on y est resté de novembre 2018 à juin 2019.
Ouais.
Donc, je pense que c'est un peu la pire période pour découvrir la ville avec le plus gros enneigement des États-Unis.
Ouais, donc, c'est sûr. Bon,
c'est vrai que la neige, moins 40, moi j'étais pas forcément préparée. Hein. Faut dire qu'à la base, je devais vivre en Californie, donc j'avais vendu toutes mes affaires d'hiver.
D'accord.
Parce que bon, je suis auvergnate, donc je connais quand même la neige, mais là c'était autre chose. C'est vrai que. Bon, malheureusement, Syracuse, je pense que c'est une ville qui était... c'est une ville... Enfin, moi, je ne connaissais pas du tout. Pour moi, Syracuse, c'était en Italie. Donc déjà, c'était pas du tout en Italie, clairement pas. Et puis, voilà, c'est vrai que je pense que c'est une ville qui a connu une gloire dans le temps et puis qui a, en fait, qui a été très riche de mines de sel. Et ensuite, je pense que voilà, il y a eu sûrement plus de sel ou quelque chose comme ça, où il y a eu une grosse industrie, je pense, qui a fermé. Et voilà, on voit beaucoup de belles villas victoriennes qui sont abandonnées, qui sont délabrées, qui sont squattées. Il y a un taux de criminalité, une consommation de drogue qui sont catastrophiques, clairement, à part l'université qui est. Vraiment une université au top. Enfin, il faut dire que les frais universitaires pour l'université de Syracuse sont d'à peu près 60 000 dollars à l'année.
D'accord. Donc loin des 10 000 dollars dont tu parlais tout à l'heure pour l'université de Norman en Oklahoma.
Ouais, loin de tout ça, c'est extrêmement cher. Donc voilà, sur le campus, les étudiants sont quand même souvent assez fortunés. Donc le campus est très très bien. Par contre, le reste de la ville assez abandonné, ce qui est assez dommage puisque aux alentours, on a quand même une nature qui est très jolie. On est dans la région des Finger Lakes, qui est une région viticole de l'État de New York, qui est magnifique. Mais c'est vrai que la ville de Syracuse en elle-même, on a vraiment eu du mal, on n'arrivait pas à se projeter. Et c'était très dur. Du coup, au bout de 6 mois, en fait, Andrew a trouvé un autre travail et a posé sa démission. Et en fait, sa chef, qui donc, elle, est originaire de Dallas, donc ils avaient déjà parlé un petit peu de leurs origines, puisqu'Andrew est originaire de Houston, au Texas, et il a vécu également à Dallas. Et donc sa chef lui dit, écoute, je vois bien que t'es pas heureux à Syracuse, ta famille te manque, tout ça. Ce que je te propose, c'est de rentrer vivre à Houston et on te propose un poste différent. Donc là,
on
a tout de suite dit oui.
Ouais, super opportunité du coup.
Ouais, c'est ça. Et juste avant ça, on allait se marier en France. Donc on fait nos cartons, on part une semaine en France pour se marier. Le lendemain de notre mariage, on rentre à Syracuse et on prend la route pour déménager à Houston.
Un beau road trip de lune de miel, en fait.
C'est ça.
D'accord. Donc, vous partez à Houston. Et donc là, ça va faire bientôt 4 mois que vous y êtes, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors, comment ça se passe, du coup, après Syracuse, que finalement, vous avez pas super... avec laquelle vous n'avez pas super accroché? Houston, c'est à la hauteur de vos espérances, de vos attentes ou de vos souvenirs, peut-être, pour Andrew?
Ouais, alors moi, j'étais jamais allée à Houston. Je connaissais Dallas au Texas, que j'avais fait plusieurs fois et où j'avais pas forcément plus accroché que ça à la ville. Mais c'est vrai que, bon, la situation géographique de Houston déjà m'intéressait. Être dans le golfe du Mexique, avoir les Caraïbes aussi près. Moi, j'aime bien partir en week-end, voyager, tout ça. Donc, ça me plaisait bien. Après, je connaissais pas plus que ça de Houston, à part, comme tout le monde, Houston, on a un problème.
Ouais.
Voilà, je connaissais rien du tout et vraiment c'est une super surprise. Je pensais que le Texas se résumait à des fermes, des vaches, des gens bon, aux opinions politiques pas forcément en accord avec moi, la façon dont j'ai grandi en France. Et en fait, j'étais très très surprise. C'est une ville qui est très dynamique, très culturelle. Il y a énormément de musées, il y a tout le temps une exposition ou quelque chose comme ça. C'est une ville qui est très diverse. Il me semble que c'est la ville la plus diverse des États-Unis. Et ça se ressent beaucoup dans tout ce qui est restaurant. Moi, j'adore goûter différents types de cuisine. Donc, c'est vraiment chouette. Et il y a énormément de parcs aussi. Moi, je pensais que ça allait être du béton partout. Enfin, pour moi, le Texan n'aime pas forcément la nature. Il s'en fiche de l'écologie, tout ça. Et en fait, j'avais totalement tort. Parce que voilà, c'est une ville très verte, les gens adorent être dehors, profiter de la nature, donc ouais, c'est vraiment une super surprise.
Bon, super. Donc là, vous êtes, depuis 4 mois, on vient de dire, hein, à Houston. Toi, tu avais obtenu ta carte verte juste avant de partir en France en juin dernier pour le mariage. Vous avez plus récemment adopté un petit chien aussi.
Oui.
Donc là... Vous sentez plutôt bien, vous projetez pour quelques années dans cette ville-là, dans cette ville-là même?
Oui, bah c'est vrai qu'on parle même d'acheter une maison. Moi qui disais non, je voudrais jamais acheter une maison parce que parce que acheter une maison, ça veut dire qu'on bouge plus, on voyage plus, on déménage plus. C'est vrai que j'ai bien aimé ces années qu'on a passées à déménager. C'est vrai que bon, même si on est un peu négatif sur Syracuse, je pense que c'est quand même une super expérience qu'on a vécue. On a appris aussi ce qu'on aimait, ce qu'on aimait moins.
Oui, bien sûr.
On a découvert la côte Est, que Andrew ne connaissait pas du tout. Moi, je connaissais que la ville de New York. Donc, c'est vrai que découvrir l'état de New York, je pense que c'est pas énormément de personnes qui ont la chance de le faire. Hein. En général, on s'arrête à la ville de New York et puis après, on fait notre chemin. Donc, c'est vrai que non, c'était vraiment chouette. Mais ouais, on est vraiment bien à Houston et je pense qu'on va y rester.
Super. Donc, ça me fait une belle transition pour un peu la conclusion de cet épisode. Je pense qu'on peut dire qu'au sens figuré comme au sens littéral, vous avez parcouru beaucoup de chemin au cours de ces 5 dernières années, hein, entre le moment où vous êtes rencontrés en Oklahoma et puis à l'heure où on enregistre ce podcast. Qu'est-ce que tu penses que ces 5 années t'ont appris sur toi, ton couple, ta vie, comment tu te sens évoluer par rapport à ça?
Ouais, c'est vrai que je pense que j'ai beaucoup appris sur moi. À mon premier voyage, donc il y a 5 ans, j'avais 20 ans, j'avais une opinion assez négative de l'Auvergne, voilà, mon pays, à la France, tout ça. J'étais assez négative, je rêvais que des États-Unis et je pense que l'expatriation et ces voyages, ça m'a appris à vraiment apprécier mon pays, la beauté de ma région. Et aussi à apprécier les moments en famille. Ben, je me suis rendu compte que voilà, chaque moment compte avec les gens qu'on aime. Et c'est vrai que ça, je l'applique vraiment tous les jours maintenant, quoi. Je dis beaucoup plus je t'aime aux gens que j'aime. Quand j'ai un problème, ben, j'en parle directement. C'est vrai que je me laisse moins ronger par les émotions. J'ai appris à vraiment, voilà, plus dire les choses, parce que je me dis, on ne sait pas quand est-ce qu'on se reverra, on ne sait pas combien de temps, donc on profite. Et c'est vrai qu'après, les choses qui sont un peu futiles, les petites choses qui nous agacent, on les laisse couler parce qu'au final, on se rend compte que ce qui compte, c'est les moments ensemble.
Ouais, bien sûr.
Donc,
ouais. Et du coup, quel serait selon toi le plus gros challenge ou la plus grosse déception que tu as vécue depuis ton expatriation ? Donc je dis expatriation, mais je veux vraiment dire depuis que, voilà, que tu as commencé cette vie aux États-Unis, même si elle a été interrompue, qu'il y a eu des retours en France.
Ouais. Je dirais que c'est vrai que je pensais que ça allait être tout beau, tout rose, qu'une fois que je serais avec Andrew, pour moi, c'était mon objectif ultime de ces deux dernières années. C'était qu'on soit tous les deux. Et je me suis rendu compte que, bon, en fait, il y avait des tas d'autres choses, que quand on s'expatrie, on ne se rend pas compte, mais quand on est fixé sur l'objectif de la destination, on oublie un peu parfois les choses qui vont nous manquer dans notre pays. Alors, il y a forcément des choses qui me manquent en France, même si je suis ravie d'être ici à Houston, je suis ravie d'être aux États-Unis et je ne voudrais pas retourner vivre en France. Et pourtant, je me rends compte qu'il y a quand même des difficultés au quotidien, même si, tu vois, j'étais persuadée que pour moi, bon, les États-Unis, c'est une société qui est... pour moi, ressemblait beaucoup à la société française, occidentale. Voilà, c'est un pays développé. En fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de choses qui diffèrent énormément sur la façon de vivre, la façon dont les villes sont construites, surtout si on compare le Texas en comparaison avec la construction d'une ville française. C'est totalement différent. Ici, on a des grandes autoroutes. À Houston, on a des 16 voies
à 8. Ouais, 2 fois 8 voies.
Ouais, c'est ça, 2 fois 8 voies.
Ouais.
Et c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est vrai qu'au quotidien, c'est des challenges auxquels j'avais jamais été confrontée. Hein. Clairement, moi, à Clermont-Ferrand, c'est une 2 voies. Pour aller à Lyon, on a 3 voies par moment. Hein.
Et, ouais.
Donc, c'est vrai que c'est des choses qu'on ne se rend pas compte. Mais j'ai quand même, ouais, je suis quand même très contente d'être là. Et c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus forte que ce que je pensais, que pour les gens que j'aimais, j'étais capable de traverser des océans. Je me suis rendu compte qu'en fait, réserver un billet d'avion, c'était pas si compliqué que ça. Il fallait peut-être arrêter d'aller manger tous les samedis à la pizzeria ou d'aller boire des coups dans les bars. Mais en fait, je me rends compte que quand on change de priorité, on peut tout accomplir.
Ouais, bien sûr. Et alors du coup, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ce parcours que tu viens de nous décrire ?
Alors, je ne sais pas si je ferais des choses différemment parce que je pense que c'est vrai que chaque chose de ce parcours m'a appris. Si je devais changer quelque chose, peut-être que j'aurais pas pris un avocat pour faire mon visa parce que je me suis rendu compte qu'en fait, mon avocat m'a apporté beaucoup plus de stress alors qu'à la base, je l'avais pris pour avoir plus de tranquillité. Mmh. Et en fait, bon, mon avocat était assez âgé, un petit peu lent à travailler. À moi qui suis très dynamique, je suis un peu une pousseuse, donc très franchement, me suis rendu compte que les formulaires, ils n'étaient pas si compliqués que ça à remplir, qu'avec un peu d'organisation, ça se faisait. Donc s'il y a des personnes qui sont confrontées à ça, alors soit je dirais, si vous prenez un avocat, faites-vous le recommander. Ou prenez quelqu'un que vous connaissez en qui vous savez qu'il est compétent et que vous pouvez faire confiance, ou sinon franchement faites-vous confiance, c'est tout à fait faisable, surtout si vous êtes épaulé de votre conjoint et de votre famille, très franchement c'est faisable. Et, ouais, je dirais que ça je changerais, mais c'est plus d'un aspect financier, parce que c'est vrai que c'est juste ce que je me dis, bon, il y a 2 000 $ de frais d'avocat qui, je trouve, sont un peu partis en fumée.
Ouais, après c'est vrai que c'est difficile parce qu'avant de se lancer dans le processus, on sait pas trop à quoi on va être confronté et du coup on a peut-être un peu l'appréhension, puis c'est un truc qui est tellement important, une démarche qui est tellement importante qu'on veut pas se rater. Et c'est ce que j'espère accomplir aussi avec ce podcast, c'est pouvoir récolter des témoignages et des expériences de gens, et voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui seront peut-être un jour dans la situation d'un visa fiancé, de savoir que finalement non, c'est pas si compliqué et que c'est tout à fait réalisable par soi-même, si tant est qu'on soit un petit peu soutenu du conjoint conjoint, peut-être sur des choses de traduction, etc. Mais,
ouais, c'est ça. Mais... Non, après, franchement, c'est tout à fait faisable. Je pense qu'on a, tellement une image de l'immigration américaine qui est vraiment mauvaise. C'est vrai que voilà, on voit des choses horribles à la télé et je pense que c'est un peu ça qui nous fait, qui clairement nous fait peur. Hein. Moi, j'avais peur. Je me suis dit, mais si je remplis pas une case correctement, ils vont me dire non, tu rentres chez toi,
c'est foutu.
Tu n'as pas droit et tu ne seras pas avec l'homme de ta vie. Et pour moi, c'était inimaginable. Et c'est vrai que j'ai vécu 2 années horribles. À être tout le temps stressée, à me dire, surtout que voilà, comme les délais sont très longs, quand tu passes 1 an à te dire, bon, ben, est-ce que je vais avoir mon visa? Quand est-ce que je vais avoir mon visa? C'est vrai que c'est très dur. Et je pense que aux personnes qui sont dans ce cas, eh ben, je dirais, prenez votre mal en patience, c'est très très dur. Entourez-vous de personnes qui peut-être ont connu le même parcours et surtout n'écoutez pas les gens qui vous disent. Je sais pas comment tu fais, je pourrais pas le faire, mais t'as pas peur qu'il te trompe, mais t'as pas peur de le tromper. Toutes ces choses, faut juste pas les écouter et continuer votre truc. Franchement, je pense que l'être humain est fait pour aimer et abandonner une relation quand on n'a pas tout donné pour que ça marche, bah, je trouve que c'est trop dommage. Donc, faut pas la lâcher, quoi.
Ouais, et tu es voilà, la preuve que les choses arrivent, qu'il faut faire preuve de patience, mais qu'au final, tout vient à point à qui c'est attendre. Et ben ouais, vraiment une chouette histoire et contente que tu sois là pour en témoigner, contente que tu n'aies pas abandonné ou peut-être que tu n'aies pas écouté les appréhensions que certaines personnes pouvaient peut-être projeter sur toi par rapport à ta relation. Donc ouais, c'est chouette. C'est ça. Alors, on arrive un peu à la fin de cet épisode, mais avant qu'on se quitte, on aime bien avec Anne-Fleur demander à nos invités de nous recommander des endroits sympas à visiter dans la ville dans laquelle ils sont. Alors toi, tu as fait 3 voire 4 villes, si on inclut Santa Barbara. Donc, est-ce que tu peux nous dire rapidement un endroit, soit dans chaque ville, soit ton coup de cœur, enfin vraiment the place à ne pas manquer si on visite. Ces villes-là.
Ouais, alors je dirais donc à Norman, dans l'Oklahoma, il n'y a pas énormément de choses à faire, mais vraiment visiter le campus. C'est un campus magnifique et assez historique avec des bâtiments qui sont splendides. Aller voir un match de foot parce que c'est vraiment quelque chose, le foot universitaire. Moi, mon premier match, je me rappelle les feux d'artifice, les cheerleaders. L'équipe d'aviation de l'université qui vole au-dessus du stade quand il y a un touchdown, c'est vraiment complètement fou. Et manger des oreos frits chez Diamond Dogs. Alors je sais que ça donne pas trop envie de parler comme ça, mais c'est vraiment délicieux.
C'est à tester en tout cas.
À tester, ouais. Après, à Santa Barbara, je dirais baladez-vous sur State Street. C'est vraiment une rue magnifique où il y a plein de petits commerces. Je dirais.
D'accord.
Finissez la journée sur le port et mangez du crabe à The Shellfish Company. C'est vraiment délicieux. Et puis, regardez le coucher de soleil parce que les couchers de soleil californiens sont vraiment magnifiques. Pour ce qui est de Syracuse, alors, ne vous arrêtez pas. Continuez jusqu'à la région des Finger Lakes parce que là, c'est vraiment magnifique. Trouver un bon vignoble, déguster du vin et puis aller chasser les cascades parce qu'il y a énormément de cascades dans cette région et c'est vraiment magnifique. Et enfin, pour Houston, je dirais, faites un tour au Buffalo Bayou Park. C'est un magnifique parc qui est en centre-ville avec donc le Bayou qui est le fleuve de Houston qui passe au milieu. Vous voyez la vue sur downtown, les gens qui font du kayak, c'est magnifique. Et puis, je dirais, manger des street tacos ou bien sûr de la bonne viande. Et je vous recommande Trouve Barbecue, qui est vraiment délicieux.
D'accord, super. Plein d'endroits à visiter pour les personnes qui nous écoutent et qui passeront dans ces coins-là. Du coup, ça me permet aussi de parler de ton compte Instagram, donc MacFrenchy. Et je mettrai les informations dans la description du podcast. Donc, si vous voulez découvrir Houston à travers les yeux de Manon, je vous recommande vraiment d'aller voir son compte. Alors, il y a beaucoup de Houston parce que c'est là qu'elle est en ce moment, mais il y a aussi pas mal des autres villes qu'elle a pu visiter ou habité dans le passé. Donc un super compte à suivre.
Merci.
Et ben écoute, Manon, merci infiniment d'avoir témoigné aujourd'hui et d'avoir partagé ton expérience, les challenges que tu as pu rencontrer et puis les belles choses aussi que tu as vécues.
Merci de m'avoir invité à participer. J'espère que ça pourra servir à certaines personnes qui, voilà, peut-être sont parfois découragées par les processus immigratoires.
Ouais, tout à fait, on l'espère aussi. En attendant, moi, je te souhaite une bonne continuation sur Houston. Plein de bonnes choses dans cette nouvelle vie. Je suis sûre qu'il y a encore plein de choses à découvrir et puis plein de bonnes choses pour l'avenir. Encore un grand merci et puis à tout bientôt.
Merci.
Merci infiniment d'avoir répondu présent au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une petite note et un petit mot, ou à en parler autour de vous. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur Instagram ou Facebook avec le pseudo @FrenchExpat, le podcast. La semaine prochaine, vous retrouverez Anne Fleur, et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours, et je vous souhaite une excellente semaine.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.